à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Il est ce qu'on appelle une légende vivante du violon. Patrice Fontanarrosa est de retour sur scène à 82 ans. Le musicien joue à la fin du mois un concert hommage à Yehudi Menuhin. C'est aux Étoiles du Classique Festival à Saint-Germain-en-Laye. On va revenir avec lui ce matin sur sa carrière de soliste, son regard aussi sur l'école française du violon et puis son lien quasi filial avec Nemanja Radulović. Il se produira d'ailleurs avec lui à la fin du mois également, mais à l'Olympia, un grand du violon, Patrice Fontanarrosa, avec nous à 8h30. Et puis c'est l'un des albums mythiques de la pop, Pet Sounds, en 1966. John Lennon lui-même le considérait comme l'un des meilleurs de tous les temps. Max Ozon l'analyse pour nous au lendemain de la mort de Brian Wilson. Ce sera à 8h20. France Musique, 8h. L'heure des informations avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Majoritairement à droite, pas sûr que le Sénat suive aujourd'hui l'Assemblée nationale qui souhaite taxer les plus fortunés. Adoptée en janvier dernier par les députés, une proposition de loi défendue aujourd'hui par les écologistes prévoit un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. 1800 foyers fiscaux au total qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Le texte reprend une idée de l'économiste français Gabriel Zucman qui en fait la promotion, y compris au niveau international. Il s'agit notamment de rétablir la progressivité de l'impôt, lequel diminue plus on monte dans l'échelle des revenus économiques. Le montant total de ces taxes pourrait rapporter 20 milliards d'euros par an à l'État, sauf que le gouvernement est lui totalement opposé à cette mesure. Il évoque un impôt confiscatoire potentiellement anticonstitutionnel. Il redoute aussi un exil des plus riches si cette proposition de loi devait voir le jour. Ni regret ni compassion, le jeune meurtrier de la surveillante du collège de Nogent en Haute-Marne ne présente par ailleurs aucun trouble mental, selon le procureur de la République. Il a confirmé que sa garde à vue était prolongée de 24 heures. L'adolescent a utilisé un couteau de cuisine pour assassiner cette assistante d'éducation de 31 ans. Un acte prémédité, souligne le magistrat. Les syndicats qui ont organisé hier soir des rassemblements en hommage à la victime réclament des moyens humains supplémentaires pour lutter contre la violence à l'école. Une marche blanche est prévue demain à Nogent. Une minute de silence est par ailleurs prévue, elle, aujourd'hui à midi dans tous les établissements scolaires du pays. Une trentaine de mesures, dont certaines ont déjà été annoncées, alimentent le plan santé mentale présenté dans la soirée par le ministre de la Santé. Il s'agit surtout de venir en aide aux plus jeunes avec l'accès à une psychiatrie de proximité. Les professionnels du secteur temporisent, il manque, disent-ils, des éléments financiers majeurs dans ce plan. S'agissant d'un autre dossier, les taxis sont eux aussi méfiants et dubitatifs. Le gouvernement promet d'étudier de près leurs propositions et programme une nouvelle journée de discussion. Elle aura lieu dans une quinzaine de jours. Les chauffeurs de taxis sont toujours vent debout contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire. Ils doivent entrer en vigueur l'automne prochain. CASA évoque désormais une possible liquidation judiciaire. Cette enseigne, qui regroupe 143 magasins en France et emploie 700 personnes, explique que ses difficultés financières sont essentiellement d'ordre logistique. Elle a également souffert de la concurrence d'IKEA et du commerce en ligne. L'entreprise espérait trouver des repreneurs, mais manifestement les offres actuellement sur la table pourraient être déclarées irrecevables à la fin du mois par le tribunal de commerce de Bobigny. En Pologne, le gouvernement pro-européen de Donald Tusk obtient la confiance du Parlement. Le Premier ministre libéral voit donc sa légitimité confortée 10 jours après l'élection d'un président nationaliste. Une victoire qui promet en tout cas une cohabitation houleuse jusqu'aux prochaines élections législatives. Elles sont prévues en 2027. Le gouverneur de Californie accuse Donald Trump de dérive dictatoriale. Le démocrate Gavin Newsom appelle à la résistance bien au-delà des frontières de son État. Le président américain a envoyé l'armée pour mater celles et ceux qui contestent sa politique de lutte contre l'immigration. La Maison-Blanche confirme que Donald Trump ne laissera jamais la loi de la rue régner en Amérique. Enfin, un dernier mot pour évoquer ici la disparition d'un maître de la pop music. L'américain Brian Wilson est décédé à l'âge de 82 ans. Il avait fondé les Beach Boys au début des années 60 avec ses deux frères aînés. On lui doit une liste impressionnante de tubes et de succès. À 8h10 sur France Musique, vous revenez dans votre revue de presse, Jean-Baptiste Urbain, sur la disparition de ce musicien hors pair, salué ce matin par une pléiade de stars.
Et on parlera de ses réactions et on évoquera aussi le disque, on le disait il y a quelques minutes, Pet Sounds, avec Max Dosolm dans un quart d'heure. Bonne journée Olivier Denré, à demain.
Bonne journée à vous, à demain.
Musique Matin.
Notre bac du matin, c'est un bac sur le tard. Notre invité à 8h30, Patrice Fontanarosa, aura attendu ses 75 ans pour enregistrer en 2017 les sonates et partitas pour violon seul du compositeur allemand. Dans le livret de ce disque, en toute humilité, le grand violoniste français explique que tout ayant une fin, la conscience de cette échéance m'a donné le désir de laisser une trace, ma trace de ce que j'admire, de ce que j'aime dans ce chef-d'œuvre. Et plus loin, il écrit « Je ne suis que poussière, mais j'aime chanter cet amour en toute humilité et à la mesure de mes élans, à ma place qui est ce qu'elle est. »
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, Allegro assai de la troisième sonate pour violon. Patrice Fontanarosa, enregistrement de 2017, son dernier disque, Patrice Fontanarosa, qui sera notre invité dans 20 minutes. Il est 8h10.
Musique Matin, la revue de presse, Jean-Baptiste Urbain.
Et d'abord, cette pluie d'hommage au lendemain de la mort de Brian Wilson. Il avait 82 ans. Sa musique vivra pour toujours. À l'instar de Nancy Sinatra, les plus grandes stars rendent hommage au cofondateur des Beach Boys. J'ai pensé à toutes les années où je l'ai écouté, où j'ai admiré son génie. Repose en paix, cher Brian, lui rend hommage Bob Dylan. Que Dieu bénisse Brian Wilson, paix et amour à sa famille, renchérit Ringo Starr, le batteur des Beatles, l'un des rares groupes à avoir dépassé en popularité les Beach Boys au début des années 60. John Lennon considérait d'ailleurs l'album Pet Sounds comme l'un des meilleurs de tous les temps. Max Dozon revient sur cet album mythique dans Maxi Classique dans moins de 10 minutes. À réécouter aussi sur le site de France Musique et l'application Radio France, les émissions que Thierry Jousse et Laurent Valero avaient consacré au compositeur Brian Wilson. On en sait plus sur le spectacle qui va clore la France Music Week, ou plutôt la Friends Music Week, prévue la semaine prochaine dans tout le pays. Un spectacle qui va se tenir le 21 juin dans les jardins du musée du Louvre. 35 000 personnes sont attendues, raconte Le Parisien ce matin, pour ce concert qui sera dirigé par Victor Lemann, le directeur musical des cérémonies olympiques de l'an dernier. Le programme complet sera révélé quelques jours avant le début du concert, mais on sait déjà qu'on y croisera la chanteuse Camille, Christine and the Queen, mais aussi la violoncelliste Sol Gabetta. Sans oublier, écrit le journal, la star de la soirée, la Vasque de retour aux Tuileries qui prendra son envol pendant le concert. Concert diffusé sur les 44 antennes Radio France du réseau ICI ex-France Bleu. Et puis, six cordes et une plume à son arc, Thibaut Covin est à l'honneur ce matin dans les pages du Figaro littéraire. Après avoir écrit son autobiographie, le guitariste virtuose se mue en romancier. Il publie son premier roman, Alter Ego, c'est son titre. L'intrusion du petit prince dans les aventures de Tintin, écrit le journal. Un livre où les choses vues lors de ses tournées se mêlent à des objets imaginés, qui fait entendre une mélodie à la fois universelle et singulière. Écrit le Figaro, on y croise James à Londres, Leila à Alger, Kaori à Tokyo et d'autres encore. Voilà, Alter Ego de Thibaut Covin, roman paru chez Jean-Claude Lattès, à lire pourquoi pas en écoutant le guitariste jouer une sonate de Scarlatti. Une sonate de Scarlatti, Domenico de son prénom, mais laquelle? C'est la 64 au catalogue Kirkpatrick en ré mineur, sous les doigts du guitariste et désormais romancier Thibaut Covin. Merci d'écouter France Musique, c'est Musique Matin, il est 8h15. Rossini contre un cœur qui brille d'amour, chante Rosine à l'acte 2 du Barbier de Séville. Et Rosine ici, c'était Carine Day avec les forces majeures, l'ensemble de Raphaël Merlin. C'est un autre opéra, Seria, celui-là de Rossini que chante la mezzo. La semaine prochaine à Paris, c'est mardi au Théâtre des Champs-Élysées. Ce sera Semiramide avec aussi Franco Fagioli, Nathalie Pérez, l'orchestre de l'opéra Normandie-Rouen, dirigé par Karine Locatelli. Il est 8h20. C'est Maxi Classique, c'est Max Ozol, mais au lendemain de la mort de Brian Wilson, le compositeur des Beach Boys, Max revient sur le plus célèbre album du groupe Pet Sounds, sorti en 66, un disque dans lequel Brian Wilson a fait jouer ses compositions par des instruments étonnants, notamment des instruments issus de l'orchestre.
Les séances d'enregistrement ont commencé tôt ce 22 janvier 1966. Dans le très réputé studio Gold Star de Los Angeles, Brian Wilson se tient au milieu d'un étrange orchestre. À côté des guitares, basses et batteries de rigueur, on trouve aussi des accordéons, un trombone, un corps d'harmonie, une mandoline, un clavecin et un panel impressionnant de percussions. Aux musiciens, des vétérans de studio de donner vie ensemble à ce mélange hétéroclite, à cette symphonie pop nommée Pet Sounds. L'originalité de Pet Sounds repose en partie sur l'association d'instruments inédites choisis par Brian Wilson. Pour écrire ce qu'il nomme, je cite, « un nouveau genre de musique sentimentale sophistiquée », le leader des Beach Boys fait jouer ses chansons aux harmonies subtiles à des instruments encore peu utilisés dans les chansons pop au milieu des années 60. Ainsi, l'introduction du titre « God Only Knows » fait-elle entendre deux accordéons, un clavecin, un corps d'harmonie, une clarinette et quelques flûtes. Pet Sounds est inspiré des orchestrations de Burt Bacharach, des enregistrements de Phil Spector et d'un album précis, Rubber Soul des Beatles. Un disque sorti en décembre 65, où l'on peut entendre un sitar et un harmonium, mais aussi des arrangements de cordes, signés George Martin, le producteur des Beatles. Un geste musical dont se souviendra Brian Wilson quelques mois plus tard. Brian Wilson enregistre aussi des objets du quotidien, comme des klaxons, des bouteilles de soda ou encore les aboiements de son chien. Il fait aussi appel à des instruments très rares. Dans « I just wasn't made for this time », on peut entendre des glissandi dans les aigus, entonnés par un theremin, un instrument électronique inventé en 1920 qui se joue en agitant les mains dans les airs. L'originalité de Pet Sounds a désarçonné les fans des Beach Boys, habitués à des chansons plus légères. Mais c'est cette originalité qui a fait de Pet Sounds un incontournable pour tous les groupes de rock progressif à venir. aussi en écoutant cet album que les Beatles vont concevoir Sgt. Pepper. Brian Wilson a dépassé ses maîtres. Love is here.
Le traité d'orchestration de Brian Wilson dans Pet Sounds des Beach Boys. Brian Wilson qui est mort hier à 82 ans. Et ce disque qui est classé numéro 2 des meilleurs albums pop de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Et John Lennon également l'estimait comme l'un des plus grands albums de pop musique. On reviendra demain avec un nouvel épisode de Maxi Classique spécial Bach, comme on le fait depuis lundi à l'occasion des spécialités musique qui démarrent dans quelques que je revoici les Beach Boys et Brian Wilson dans cette fois l'un des plus gros tubes.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations.
Thank you. Les Beach Boys, Brian Wilson et ses Good Vibrations sur France Musique. Une fois n'est pas coutume, de bonnes vibrations aussi dans Peace. Rodolphe de Boulmier, bonjour.
Et bonjour à Jean-Baptiste. Et puis voyage aussi un peu sur une autre planète, ce que nous proposaient les Beach Boys et ce que nous propose aussi Gustav Holst avec cette fameuse partition Les Planètes. Je me dis que c'est un peu cruel pour ce compositeur d'être tenu seulement pour cette partition alors que sa production est passionnante. Mais c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre et ça plaît toujours au public et à nos auditeurs. Donc on ouvrira l'émission avec Mars, le dieu de la guerre.
Et une version australienne.
Exactement,
on Melbourne.
Exactement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
9h. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est ce qu'on appelle une légende vivante du violon. Patrice Fontanarosa est de retour sur scène à 82 ans. Le musicien joue à la fin du mois un concert hommage à Yehudi Menuhin. C'est aux Étoiles du Classique, ce festival de Saint-Germain-en-Laye. L'occasion de revenir avec lui ce matin sur beaucoup de choses, sa carrière de soliste, peut-être aussi ses années ici à l'Orchestre National de France, son regard sur l'école française de violon ou encore son lien quasi filial avec Nemanja Radulovic, avec lequel il se produira à la toute fin du mois, le 30 juin à l'Olympia. C'est un grand du violon, libre et généreux, qui est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Bonjour, Patrice Fontanarosa. On est ravis de vous recevoir.
Vous me mettez de bonne humeur avec tout ce que vous annoncez.
Vous êtes venu souvent ici sur France Musique. On a diffusé beaucoup vos concerts, écouté vos disques, tendu le micro. Aujourd'hui, vous jouez moins, vous vous produisez moins. Est-ce que c'est difficile, douloureux, de quitter le devant de la scène, même quand on l'a choisi?
Oui, c'est difficile, parce que c'est une drogue quand même. C'est une drogue et puis c'est une justification de enfin c'est une vie un idéal de vie, donc évidemment rompre ça c'est un peu difficile. D'ailleurs j'y arrive pas très bien, hein. C'est un peu compliqué, mais passionnant, parce que malgré tout il y a rien qui se finit. Je veux dire, il n'y a rien qui se finit. Musicalement, il continue à y avoir des choses qui évoluent. Donc, on est en appétit tout le temps.
Vous continuez de vous produire régulièrement. Mais par rapport aux grandes années, qu'est-ce qui vous manque le plus? La scène, vous disiez, une drogue?
Oui. C'est la scène en elle-même, mais c'est surtout le fait de travailler l'instrument, monter des œuvres. Ça ne se justifie que si elles vont être écoutées. Donc, on peut travailler des heures et des heures pour monter une belle pièce, mais si elles ne doivent pas être écoutées, ça n'a plus de sens.
Vous jouez encore tous les jours? Vous travaillez tous les jours?
Ah oui. Ah oui, puis ça aussi, c'est une drogue. Je ne peux pas me lever le matin sans penser qu'il va falloir faire quelques heures de violon.
Bach, tous les jours, comme beaucoup de musiciens?
Oui, bah forcément. C'est une sorte de toilette sur le plan émotionnel. Et
de l'âme.
De l'âme, voilà un mot que j'aime bien aussi. C'est bien que vous l'employiez.
L'âme du violon.
L'âme du violon, puis l'âme tout court des humains.
Patrice Fontanarosa est notre invité jusqu'à 9h. Votre dernier disque, il date de 2017, disque consacré au grand Jean-Sébastien.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, le prélude de cette troisième partita, Patrice Fontanarosa au violon, notre invité ce matin. Vous jouez à la fin du mois, on en parlera tout à l'heure, à la fois à Saint-Germain-en-Laye, au Festival des Étoiles du Classique, et puis à l'Olympia avec Nemanja Radulović. Ce disque dont on vient d'écouter un extrait, on en a écouté un autre extrait en début d'heure, il est sorti en 2017, consacré à Bach. Vous aviez 75 ans à l'époque. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour enregistrer Bach?
En fait, c'est les limites de la vie qui m'ont amené à prendre une décision. Avec les chefs-d'œuvre, c'est jamais assez bien, on n'est jamais assez près, il y a toujours. Et du reste, maintenant, quand j'entends cet enregistrement-là, je me dis, tiens, j'aurais dû attendre encore. Et
puis ah bon? Le faire.
Ah oui, il y a des choses que moi, voilà. Mais c'est éternel, ça. C'est toute notre vie est faite comme ça, d'insatisfaction. On travaille pour obtenir un résultat, et quand on l'a obtenu, il semble qu'on n'a pas fait la moitié de ce qu'il aurait fallu faire, quoi.
Dans le livret, vous parlez de laisser une trace, ma trace de ce que j'admire, de ce que j'aime dans ce chef-d'œuvre. C'est une réflexion que vous faites souvent, une question que vous posez, la trace qu'on laisse quand on est interprète et pas créateur?
Oui, c'est-à-dire que là, c'était surtout en ce qui concerne le style, parce que, bon, on n'est pas sans savoir que, évidemment, la musique baroque, il y a toute une philosophie autour de ça, et qui est celle qu'on donne à la musique. Faut-il la jouer comme elle se jouait? Faut-il la jouer comme aujourd'hui, etc. Donc, moi, j'ai renoncé à penser à ce que se faisait, puisque j'étais pas vivant, donc j'en sais rien.
Vous êtes du côté des modernes?
Oui, je suis du côté d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est-à-dire que la musique que j'aime, c'est celle que je sens, et puis je la sens avec. Et c'est dans ce sens-là que cette phrase-là a été dite, que je le fais avec ce que j'ai cru, mais pas du tout en fonction de ce qui se fait, de ce qui se dit.
Vous disiez tout à l'heure, ça continue à évoluer. Comment votre perception de la musique, de cette musique-là, de Bach, par exemple, elle a évolué avec le temps?
Ben écoutez, si je vous demandais si vous êtes toujours pareil qu'à 20 ans. Vous avez évolué, et dans la balade, la promenade qu'on fait dans tous ces chefs-d'œuvre, forcément cette évolution, elle se trouve tout le temps. Alors c'est l'évolution de ce qu'on est, parce qu'en fait les notes d'une partition, elles changent jamais, mais soi-même évidemment, on évolue, donc les notes, elles ont des significations sinon différentes, plus ou moins intenses. Et ce que j'aime dans le fait de vieillir, c'est que l'intensité de la musique, on la perd pas du tout.
Contrairement
à la forme physique, il y a plutôt tendance à diminuer.
Parce que on sent vraiment quand on est violoniste que au niveau de la puissance, des doigtés, on perd. Comment ça se passe?
Si on s'entretient comme vous me posez la question tout à l'heure. Oui. Alors bon, il n'y a pas la même implication physique que pour un sportif de haut niveau, mais il y a quelque chose de similaire. Il faut entretenir la main, il faut entretenir les réflexes, il faut entretenir tout ça. Et puis là, évidemment, l'expérience, elle sert beaucoup. On dépense moins d'énergie inutile quand on vieillit. Donc, du coup, on se fatigue moins.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie de remonter sur scène? Quand est-ce que vous dites oui?
Je dis oui quand on me propose de jouer. Enfin, bon, à condition qu'on ne me fasse pas faire des excentricités. Mais c'est toujours, je vous dis, c'est la justification de toute ma vie, ça, parce que... Si je peux pas me faire entendre, ou faire entendre la musique que j'aime, parce qu'en fait c'est sa musique que j'aime, que je veux faire aimer, c'est ça le eh bien, voilà.
Ce sera le 28 juin à Saint-Germain-en-Laye, au théâtre Alexandre Dumas, pour un concert hommage à Yehudi Menuhin, et vous jouez notamment Fritz Kreisler. Thank you. Jeune Rosemarine Fritz Kreisler, version ici avec orchestre, Patrice Fontanarosa, le Symphony of London dirigé par Douglas Gamley. Vous allez jouer Kreisler, Liebeslied, mais aussi Dvorak, Isaïe, le 28 juin au Théâtre Alexandre Dumas dans le cadre de ce festival Les Étoiles du Classique. Vous serez avec Itamar Golan, il y aura plein d'autres violonistes d'ailleurs pour un concert hommage à Yehudi Menuhin. Que représente Menuhin pour vous, Patrice Fontanarosa?
C'est l'idéal d'artiste que j'aurais aimé être. Enfin, j'aurais voulu être de cette envergure-là, et que j'imagine que les artistes doivent avoir cette envergure-là. Non seulement sur le plan violonistique, parce qu'ils jouaient magnifiquement, mais presque philosophiquement, je pourrais dire, parce que quand il arrive, c'est comme une sorte de messie qui est sur scène, et son attitude en tant qu'humain, qu'être humain aussi, est même magnifique, parce qu'elle est à la mesure de ce qu'il a donné avec sa musique, c'est-à-dire générosité, tolérance et toutes ces choses qui sont tellement importantes. Et pour ça, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois.
Vous avez beaucoup échangé ensemble?
Oui. Et vraiment, il est comme on le voit sur scène, c'est-à-dire, il était, puisque malheureusement. Donc, quand Thomas Lefort m'a proposé de participer à un hommage,
le directeur artistique de ce festival, qui est violoniste,
j'étais trop trop content.
Il apportait quoi au violon, Menuhin, pour vous?
Je sais pas s'il a apporté au violon, il a apporté au monde de la musique et au monde de l'idéal artistique comme violon, parce que bon, des violonistes extraordinaires, il y en a quand même beaucoup de sa génération et qui ont joué merveilleusement, mais il émanait de lui quelque chose qui émane très peu de beaucoup d'autres, même si c'est des grands musiciens. Je vous dis, c'est un comportement dans sa vie, c'est un comportement dans sa façon de réagir, de penser, et puis de jouer avec une sorte d'émotion ineffable. Ça, c'est ça, ineffable.
Dans ce concert, il y aura d'autres violonistes de plusieurs générations, de Laurent Corsia à Nathan Myrdal, qui est soliste ici à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il y aura 200 jeunes musiciens dans tout ce festival Les Étoiles du Classique. C'est important pour vous de soutenir ces jeunes musiciens? Quel regard vous portez sur les jeunes? Vous êtes attentif aux jeunes violonistes, à ce qu'ils font?
Oui, bien sûr. En plus, comme j'ai quand même pas mal enseigné, c'est quelque chose qui tient une grande place dans ma vie. Vous savez, à un moment, on se fait l'effet d'un jardinier qui aurait des terres fertiles à ensemencer. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire de les mettre en face de tout ce qu'ils peuvent faire et puis de leur permettre de réaliser ça, de ne pas perdre confiance. Donc, la jeunesse, en plus, il émane d'elle quelque chose qu'on regrette, évidemment, quand on vieillit, parce que ça manque un peu, cette espèce d'élan qu'elle a sans condition, vraiment. Les jeunes, quand ils jouent, ils jouent sans en faire une histoire, ils jouent avec leur cœur, ils jouent avec leurs élans, bien qu'ayant des préoccupations quand même, mais et ça c'est formidable. Et dans ce festival, je pense que le nombre de jeunes qui sont là, ça va donner une intensité à la musique un peu rare.
Ça existe encore, l'école française de violon, selon vous?
Oui, bah c'est un peu comme tout, bon, avec la vie internationale, forcément tout diminue. Mais il y a quand même quelque chose dans l'école française, qui est d'ailleurs belge aussi, parce que les grands violonistes.
L'école franco-belge.
Franco-belge ou belgo-française, je sais pas comment on peut dire, mais dont Isaïe, justement, était un très grand représentant. Et elle a laissé des traces, comme du reste dans tous les domaines de l'expression, les peintres, les écrivains, les musiciens. Il y a une âme qui a été un peu bercée dans l'éducation et dans la culture française, dont il reste ce goût des couleurs, ce goût de la construction, une espèce d'élégance, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais voilà, des choses qui sont qui sont aussi dans la séduction. Voilà. On est un tout petit peu sorti de ça, dans ce souci de jouer parfaitement, d'être toujours bien. Donc, les écoles se sont un peu... Hein, c'est comme les sportifs, il n'y a plus vraiment de différence entre l'école russe, l'école américaine, l'école... Mais au niveau de l'émotion, si.
Je vous propose, Patrice Fontanarosa, d'écouter trois jeunes musiciens. On est en 1973. Ils s'appellent Frédéric, Renaud et Patrice Fontanarosa.
Ça date pas d'aujourd'hui.
Début de ce mouvement lent du trio en si bémol majeur de Schubert, avec le trio Fontanarosa, votre sœur Frédéric, votre frère Renaud au violoncelle, votre sœur Frédéric au piano et vous, Patrice Fontanarosa, au violon. Il y a eu une grande vie de ce trio Fontanarosa. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça changeait de jouer en famille ?
Il y avait des avantages et puis des inconvénients, comme toujours dans toutes les situations. Bon, les avantages, c'est qu'évidemment, on aimait la musique de la même façon et ils ont eu la même éducation, avec la même passion, le même idéal qui nous guidait. Donc ça, c'est au niveau de nos interprétations, je pense que les gens le sentaient parce qu'ils en parlaient tout le temps. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment fort. Il y avait une homogénéité d'élan qui était bien. Et puis, il y a l'autre dimension qui est celle d'être en frère et sœur, c'est le côté consanguin de ça. Quand on joue avec des partenaires différents, ils vous ensemencent de leurs idées, ils vous donnent. Quand on est entre frères et sœurs, on va dans le sens sans se poser de problème. Et finalement, peut-être que c'était, c'est pas un gros inconvénient par rapport aux avantages, évidemment.
Il y a les familles de sang, puis il y a les familles de cœur. Patrice Fontanarosa, le 30 juin à l'Olympia, où vous allez jouer en concert avec Nemanja Radulović, et le concert de Nemanja à l'Olympia.
Oui, oui.
Qui est-il pour vous, et vous, qui êtes-vous pour lui ?
Ça, il faut lui poser la question. À lui, apparemment, il m'aime bien, donc c'est déjà quelque chose. Et puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour ce qu'il engage dans sa vie d'artiste, justement. Moi, c'est une des choses qui me touche le plus. Quand les musiciens, qu'ils soient violonistes ou autres, s'engagent et totalement, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils aiment. Et Nemanja était de cette nature-là. Outre que c'est un violoniste absolument fabuleux, parce que ça, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte tout au long des années qu'on a passées ensemble au conservatoire. Mais en dehors de ça, il a une personnalité. Et puis, c'est pas son look. Hein, bon, il a une personnalité sur sa façon de jouer du violon, de faire sa musique qui est la sienne.
Généreux, libre, comme vous un peu.
Oui, moi j'aurais voulu être plus aussi libre que lui, parce que moi j'appartiens à une génération où on n'était pas quand même
très libre. C'est trop tard pour avoir les cheveux longs.
Pardon ?
C'est trop tard pour avoir les cheveux longs.
Il me reste sur le crâne, je crois.
Il m'aime bien, mais lui, il parle de vous comme de votre père adoptif, quasiment. Il a une question pour vous, d'ailleurs, ce matin, Nemanja Radulović. Écoutez.
Ah bon ? Bonjour Patrice, c'est Nemanja.
Bonjour.
Alors, ma question du matin, c'est est-ce que les expériences personnelles influencent le style et l'émotion dans la musique d'un compositeur et d'un interprète ? Je me réjouis de vous retrouver dans quelques semaines.
Bonjour Patrice.
Bonjour, bonjour.
Avec la fille de Nemanja derrière.
Oui. Alors, oh, ben, bien sûr qu'on est influencé par les expériences de la vie. Il y a une chose qui est importante, et ça, il le sait bien, c'est d'où on vient. Et puis après, ce qu'on a vécu, ça c'est capital. Et lui, la façon dont il joue, c'est le reflet de ça, avec une sorte d'acharnement à être vivant, à vouloir vivre les choses.
Vous entendez Bach ici, là ? Là, c'est lui qui joue,
oui,
et au clavecin, c'est Stéphanie Fontanarosa.
Vous en sortirez pas.
Votre fille, Nemanja, là, c'est un peu le résultat de votre transmission à la fois de ben, prof.
Oui, comme ils sont enfin, Nemanja est un peu plus jeune, mais comme avec mon fils violoniste et puis Stéphanie pianiste, ils ont collaboré beaucoup ensemble. Il y a ce sentiment de grande affection qu'il y a entre lui et nous. Ça se retend tout au long de la vie. Et puis, voilà. Enfin, il est vraiment. Il forme une équipe magnifique avec Stéphanie.
On parlait de famille, et le 29 juin, il y a un autre événement que ce concert, ce week-end-là, des Étoiles du Classique. Ce sera le dernier des concerts du dimanche matin de Jeanine Rose. Après 50 ans de concerts, pas comme les autres, sans placement, le matin, avec des places offertes à des associations, des musiciens, tous payés pareil. Jeanine Rose, ça a été votre agent, elle vous a engagé ensuite sur des concerts. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
C'est une femme un peu hors norme. Hors norme, et elle est restée hors norme tout le long de sa vie, et dans notre monde, je crois que c'est pas évident. Et elle représente simplement l'opportunité qu'elle a donnée à tellement de musiciens de faire des concerts à une heure qui a priori n'était pas favorable à la musique, et dont j'ai découvert qu'on pouvait faire la musique avec une grande intensité à 11h du matin comme à minuit.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Patrice Fontanarosa est notre invité. Il jouera le 28 juin à la grande soirée du violon hommage à Menuhin au théâtre Alexandre Dumas. C'est à Saint-Germain-en-Laye et c'est dans le cadre de ce festival Les Étoiles du Classique. On n'a pas dit d'ailleurs qu'il y aura aussi Jérémy Menuhin qui sera présent à ce concert, et vous serez deux jours plus tard à l'Olympia. C'est votre premier Olympia ?
Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est vraiment pas un endroit où on avait l'occasion d'aller jouer les musiciens classiques.
Allez, on va se quitter avec vos choix musicaux, on a ajouté aussi une musique, à chaque fois vous nous dites de quoi il s'agit et pourquoi vous l'avez choisi, on commence par ça.
Alors, c'est l'adagio de la troisième sonate majeure de Bach, par Menuhin, qui est un des grands interprètes de Bach, justement, sous l'impulsion de Georges Enescu, qui a été son maître à penser, si on peut dire, pendant de nombreuses années. Et il en a gardé, justement, cette profondeur qu'on aime tellement dans cette musique.
Allez, deuxième choix de Patrice Fontanarosa.
C'est pas magnifique ça. Oh là là, voilà. Moi, pour moi, la musique, elle doit chanter. Voilà. Et là, évidemment, elle n'est jamais plus mise en valeur qu'à l'opéra, où j'ai passé de nombreuses années et où j'ai découvert le lyrisme. Et venant d'une famille latine où mon père disait toujours il faut que tu chantes avec ton violon. Quand je suis rentré à l'opéra, j'ai entendu ces grandes voix-là. Et depuis, je suis. Pour moi, c'est alors Pavarotti dans ce air célèbre de Nessuna Dormi de Puccini, c'est le rêve. À chaque fois que j'entends ça, j'ai le cœur qui se gonfle.
Alors, il y a vos choix musicaux, puis moi j'ai choisi ça, écoutez.
êtes avec Marielle, là. Hein.
Marielle Nordman, ouais, à la harpe. Vous avez partagé longtemps votre vie ensemble, Coralie.
Et là aussi, ça a été une source de joie magnifique de jouer avec elle, parce que c'est une artiste exceptionnelle. Et c'est vrai que les concerts qu'on faisait ensemble, c'était toujours en dehors des normes, si on peut dire. Vraiment, j'ai régalé. C'est vraiment une... Je lui dis bonjour, d'ailleurs, si elle écoute.
Peut-être que oui. On va se quitter avec ça.
J'ai le goût du mélo. Je l'aime à la folie. Quand elle coule à flot. La mélancolie.
Ça, c'est Michel Jonas. Dans La Mélancolie, c'est une chanson, c'est un titre extraordinaire et d'une émotion très, 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 très forte. J'aime beaucoup Michel Jonas, c'est quand même un très grand musicien.
Vous êtes mélancolique, Patrice Fontanarosa ?
Comment ?
Vous êtes un mélancolique ?
Peut-être en tant que latin, j'ai peut-être des tendances à me laisser aller à la... Moi, maintenant, quand j'étais jeune, je n'aimais que la musique mineure. C'est-à-dire un peu triste, avec du bémol, comme on dit.
Elle m'a fait hello.
Patrice Fontanarosa, merci d'être venu ce matin sur France Musique.
Je suis trop content. Ça m'a
Rendez-vous
fait grand plaisir.
Le 28 juin au théâtre Alexandre Dumas pour ce concert hommage à Yehudi Menuhin à Saint-Germain-en-Laye et deux jours plus tard à l'Olympia avec Nemanja Radulović. Notre voix mystère il y a une heure était celle de.
Ma nostalgie à moi va vers l'adolescence, pas vers l'enfance. Ensuite, j'ai une adolescence toujours à Nancy avec une histoire d'internement, puis une histoire de viol. Ça, c'est des éléments traumatiques marquants. Mais autour de, ou dans l'intervalle ou autour de tout ça, il y a aussi vraiment une rencontre avec la musique très forte.
Et c'était la voix de Virginie Despentes. Merci à tous. Et voici Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, des inédits de Chostakovitch, c'est pour marquer l'anniversaire de sa mort et c'est un très beau disque avec beaucoup de différents interprètes.
À tout de suite.
Vendredi 20 juin à 21h10, en direct sur France 3 et France Musique, vivez la soirée Musique en fête rend hommage au cinéma en direct des Corégies d'Orange. Stars et jeunes talents se succèdent sur la scène du théâtre antique, accompagnés par l'Orchestre National de Lyon. Avec Alexandre Tarot, Hermonella Yao, Marc Lavoine, Benjamin Bernheim, Pierre Génisson et Neyma Naouri. Musique en fête rend hommage au cinéma, présenté par Judith Chen et Cyril Ferraud, vendredi 20 juin à 21h10, en direct sur France 3 et France Musique.